Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Le grand oral de la présidentielle. Elisabeth Martichoux, vous êtes ce matin avec Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour madame.
Merci beaucoup de nous recevoir dans votre QG parisien du 10e arrondissement pour cette matinale d'RTL. Vous préparez, j'imagine, ici le meeting de Lille demain soir après celui de Marseille sous le soleil du Vieux-Port. Mais si vous voulez bien, d'abord un premier commentaire, puisqu'on ne vous a pas encore entendu, sur notre sondage Kantar, Sofres, Winepoint, le premier qui vous place devant Fillon d'un point et loin devant Hamon. Quel est le prochain objectif de Jean-Luc Mélenchon maintenant ?
Je ne m'en suis pas caché, je l'ai annoncé il y a déjà quelque temps. C'est la logique d'une élection, on cherche toujours à rattraper celui qui est devant soi, et ainsi de suite jusqu'à la première place. Bon, c'est assez dans mon tempérament. Une élection, pour moi, ça n'a jamais été une simple tribune. C'est un moment très fort de conscience collective, d'échange, de polémique, dans lequel le jugement du peuple français se forme, et c'est passionnant. Donc,
mais alors, il se forme sur quoi, là, cette performance, quand même, sondagière ? C'est votre style apaisé, c'est votre programme, ce sont les débats télé, c'est tout ça en même temps ?
Ça doit être un peu de tout, mais surtout, pardon d'être un peu content là, du travail accompli, parce que c'est un travail immense, c'est celui d'une équipe, je n'ai jamais été seul, vous le savez bien, mais c'était un pari, celui de se dire depuis le début qu'on construirait un bloc d'adhésion qui ferait un effet de boule de neige, vous voyez. Plus cette boule est importante, plus elle entraîne et elle ramasse autour d'elle. Si bien qu'en commençant il y a un an, tout ce long travail sur le programme, je pense qu'on a beaucoup convaincu et donc entraîné.
Convaincu à gauche ? Ramasser à gauche, pour reprendre l'idée de la pierre qui amasse.
Je dirais de tous côtés, car depuis
vraiment
le début,
oui, c'est pas Benoît Hamon surtout que vous siphonnez là dans les sondages.
Je ne sais pas, je suis pas capable d'évaluer ça. En tout cas, si vous voulez, mon objectif, vous savez, il y a eu des discussions dont on a le secret dans nos milieux. On oppose des formules abstraites les unes aux autres, et les uns me disaient il faut rassembler la gauche, et moi je répondais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est fédérer le peuple. C'est-à-dire que je ne cherchais pas à faire de la soupe aux sigles, à rassembler des personnalités, des importants, etc. Je cherchais à convaincre un nombre significatif de Français qui entraînerait les autres. Et on me dit que c'est au-delà de nos espérances, puisque même des gens qui ne
et
sont pas au départ...
Et c'est au-delà de la gauche, c'est ce que vous dites. C'est au-delà de la gauche.
Ah ben évidemment. D'abord parce
mais vos
que...
fondamentaux, vous, Jean-Luc Mélenchon, ils
moi,
sont bien
à gauche.
Moi,
je suis un homme de gauche, bien sûr. Je veux dire, personne ne s'y trompe. Je suis un homme de gauche. Mais je me suis dit que ça ne servait à rien de vendre une étiquette. Il fallait vendre un contenu. Vendre, c'est un mot un peu exagéré, mais disons, il fallait proposer un contenu. Et sachant que pour la très grande majorité des Français, il y a une pulsion que j'ai appelée dégagiste, c'est-à-dire les gens en ont par-dessus la tête de tout ce système et veulent en changer de fond en comble. Je pense qu'un homme comme moi qui propose une sortie raisonnable, c'est-à-dire une constituante, le changement de république, des choses comme ça, sont entendues par des gens qui sont à la fois en colère, mais qui n'ont pas envie non plus de tout casser.
Mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu. Votre prochain objectif, c'est quoi, maintenant que vous avez rattrapé Fillon ?
Attendez, d'abord, c'est de m'assurer que la prise est bien faite, et vous voyez bien qu'un paysage entièrement nouveau se dessinerait tout aussitôt, car si, en effet, je suis devant M. Fillon, alors tout l'argument d'après lequel le vote utile, ce serait M. Macron pour éviter Fillon-Le Pen, s'effondre. Et les gens peuvent se dire légitimement, bah, tiens, pendant qu'on y est, pourquoi pas Mélenchon ? Et dans ce cas, eh bien, la partie sera emportée. Parce que M. Macron, comme vous le savez, a un agrégat assez fragile. Des gens qui le soutiennent, mais bon, sont pas vraiment sûrs.
Candidat attrape tout, dit-on de lui, parfois.
C'est peut-être un peu injuste, parce que, après tout, il a quand même réussi à dire deux, trois choses, et les gens l'identifient. C'est un centriste, c'est un libéral. Bon, les gens savent à quoi s'attendre. En plus, il ne leur a pas caché. Puis là, dernièrement, il leur a mis un coup de matraque sur la tête en leur annonçant qu'il allait changer tout le code du travail par ordonnance. Imaginez-vous que ça s'est entendu dans les milieux du travail.
Et vous le répétez. Mais vous pensez qu'il peut, là, effectivement, s'étioler dans les 15 derniers jours ? C'est ce qu'il guette.
Je disputerai le terrain le moment venu. C'est normal. C'est le jeu même d'une élection que de convaincre. Bon, alors moi, ce que je lui demande, si vous me le permettez, ce que je lui demande, c'est de garder à nos échanges la tenue qu'ils doivent avoir, car l'un d'entre nous, parmi les quatre que vous avez cités, sera le président de la République dans un mois.
Oui.
Donc ça ne sert à rien.
Mais quand il dit Fillon, Le Pen et Mélenchon sont fascinés par Poutine, vous trouvez que c'est une mauvaise manière ?
Bon, voilà, ça ne sert à rien de parler comme ça. Ça n'aide pas les gens à comprendre de quoi il retourne. Figurez-vous que je ne suis fasciné par personne sur la terre entière, sinon par ceux qui... ont exercé des responsabilités dans le pays. Mais regardez une autre chose. Par exemple, il dit hier, d'une manière assez malencontreuse, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un complexe parce que j'ai bien parlé de la paix, il dit « Ah, si c'est pour un désarmement unilatéral, c'est de la naïveté. » Mais je n'ai jamais proposé de désarmement unilatéral.
Oui, parce qu'il vous, dit effectivement « la paix, ça ne se décrète pas. » Parce que vous avez dit « Je suis le candidat de la paix à Marseille.
Oui, »
Vous
oui.
l'avez dit plusieurs fois. Et,
oui,
et
oui.
c'était vraiment un discours très senti. Il dit « Mais ça ne se décrète pas, la
bien
paix. » Et
non.
pour faire la paix, dit-il, vous dit-il, il faut déclarer la guerre au terrorisme. Ce que vous ne faites pas, c'est ce qui sous-entend.
C'est ce qu'il dit, oui. Bon, ça n'est pas très utile de parler comme ça, mais allons sur le fond quand même, pour qu'ils le comprennent bien. Lui a pris acte du bombardement de M. Trump. Quand on est le président de la République française, on ne prend pas acte d'un bombardement décidé par une personne, sans mandat de l'ONU, sans mandat de l'OTAN, sans mandat de personne. Par précaution, on le fait. Même si sur le moment, on se dit, tiens, après tout, il a détruit 2-3 installations et ça nous arrange bien. Ce qui n'est pas mon avis. Mais supposons que ce soit son avis. Il ne peut pas dire oui à un acte unilatéral. C'est une erreur pour le futur.
Mais lui, Macron et d'autres considèrent que Bachar est un criminel de guerre. Et que ce n'est pas la première fois qu'il utilise des armes chimiques, si on a la preuve que c'est lui, d'ailleurs.
Mais Madame Martichoux, vous venez de tout dire. Si on a la preuve, nous ne sommes pas, nous sommes pas au café du commerce. Nous sommes des grandes puissances. Nous pouvons déclencher un feu de guerre dont personne ne se relèverait. Alors, que M. Bachar al-Assad soit un criminel, tout le monde le sait. La discussion ne porte pas sur ce point. La discussion porte sur comment arrêter la guerre et comment rendre la parole au peuple syrien dans des conditions démocratiques et de paix qui fassent qu'eux-mêmes puissent s'en débarrasser. Madame Martichoux, ça n'a jamais rien donné, les missionnaires armés. On le sait. Parce que nous-mêmes, nous l'avons été, nous les Français. Nous avons passé nos frontières avec nos grands mots, nos grands idéaux républicains.
Oui, mais vous le savez mieux que quiconque, vous qui aimez l'histoire, qui la connaissez si bien, le pacifisme non plus ne prévient pas contre la guerre.
Vous avez raison. Mais moi, je ne suis pas pacifiste, je suis pacifique. Ce n'est pas pareil. Et je dis, la paix s'organise et se prépare. Moi, je crois que les guerres ne réglant jamais rien, vous l'aurez observé, il y en a peu qui ont bien fini, hein. Eh bien, dans ces conditions, mieux vaut organiser la paix. Là, sur la Syrie, nous avons de très bonnes résolutions de l'ONU, nous sommes une grande puissance, nous sommes au Conseil de sécurité, c'est à nous de faire avancer ça, et surtout pas d'aller dire à M. Trump, qui m'a l'air bien agité, allez-y, tapez là où vous voulez.
On revient à la présidentielle. Vous avez dit, dans mon viseur, maintenant, il y a Emmanuel Macron. Prendre le pouvoir, c'était assez loin de vos préoccupations, peut-être de vos envies, il y a quelques mois. Vous commencez à y penser. Vous êtes élu. Vous êtes quand même à la tête de la 5e puissance mondiale. Vous gouvernez avec qui ?
Avec les députés que le peuple français me donnera. Parce
mais d'abord,
que...
vous avez un gouvernement ? Vous avez pensé un Premier ministre ?
Oui, mais ne me demandez pas qui.
Non, mais vous avez
mais
pensé à un Premier
ministre.
Bien sûr,
mais écoutez, il y a une certaine, comment dire, arrogance de certains milieux dans ce pays à croire que si l'on ne choisit pas dans la botte des 10 premiers arrivés au concours de je ne sais quoi, on n'est pas digne de figurer. Mais ce pays regorge d'intelligence, de gens de très haut niveau, femmes et hommes, et il n'est pas difficile de composer une équipe performante, surtout
quand on
voit...
Mais plutôt un politique, plutôt un intellectuel comme vous comme...
Ce seront des mélanges d'intellectuels... de gens qui ont une vie très active, professionnelle, ou dans la vie sociale, syndicale, associative. Il y a plein de gens. Et puis il y aura une forme particulière de gouvernement, dont je parlerai bientôt, peut-être à Dijon, pour mon multiplex, comme on pourrait dire, de meeting en...
Votre hologramme, votre
nouvelle
opération holographique.
Oui, oui, oui. Je vais vous dire une chose. J'ai lu à plusieurs reprises que mon projet n'aurait jamais été de gouverner. Mais quelle drôle d'idée, je n'ai jamais pensé à autre chose. Quel est le sens pour un homme comme moi de se battre pour des idées s'il ne croyait pas pouvoir les exécuter un jour ? Pourquoi croyez-vous que j'ai passé tant de temps ?
Il y en a beaucoup à gauche qui disent ça de vous,
oui,
de
bah,
Jean-Luc Mélenchon.
Que...
Oh, lui, mais de toute façon, il fait ça. Il fait son tour à la présidentielle, mais gouverner, ça ne lui traverse pas l'esprit.
Oui, ça, c'est parce qu'eux-mêmes ont des ambitions peut-être un peu limitées ou des moyens qui leur empêchent d'imaginer ce que peut être la conduite d'un grand pays au service d'une grande idée. Mais j'ai passé des heures avec des présidents de républiques d'Amérique latine ou dans le Maghreb à parler, à discuter, à regarder comment ils faisaient. J'ai appris partout, de tout le monde, et je me sens prêt, mais j'ai envie de vous dire, vous savez, en démocratie, normalement, tout un chacun est en état d'exercer des responsabilités. Il faut arrêter cette vision aristocratique de l'exercice du pouvoir qui le réserve aux enfants des bonnes familles ou aux ceux qui ont réussi dans les grandes écoles.
J'aurais voulu parler de l'emploi, on va y aller très vite parce qu'il nous reste trop peu de temps. C'est important, c'est la première préoccupation des Français. Ça n'est pas tout à fait votre première préoccupation, vous, c'est la 6e République dont vous avez déjà beaucoup parlé, mais pour arriver à lutter contre le chômage, vous voulez réduire le temps de travail. D'abord, renforcer les 35 heures, revenir aux 35 heures. Les entreprises qui ont signé des accords de flexibilité, vous les laissez ? Vous
non,
ne revenez
bien sûr
pas
que
dessus
non. attendez, l'emploi est la préoccupation numéro un. Parce que les autres aspects ont leur importance, mais il faut d'abord redonner, je ne sais pas comment vous résumez ça, un horizon aux gens, quoi. Il y a là tant de millions de gens qui n'en ont plus aucun, donc c'est la première préoccupation. Tout le plan est construit, la transition écologique est une machine à créer de l'emploi. Car évidemment, chaque fois que vous changez la manière de produire, eh ben vous changez aussi les moyens. Voilà. Donc, je compte sur plusieurs millions d'emplois grâce à la transition écologique dans tous ses aspects et dans toutes ses composantes, c'est-à-dire aussi bien l'emploi dans les petites entreprises que dans les grandes. Mais l'idée d'un code du travail à géométrie variable, la réponse est non. Le code du travail sera le même partout.
Mais ça veut dire que les entreprises qui ont déjà dérogé aux 35 heures par des accords internes, ils ne peuvent pas garder leurs accords ?
La loi s'appliquera.
D'accord, donc il y aura un retour en arrière.
Et Non, ce ne sera pas un retour en arrière, ça sera un bond en avant. Parce que pour la vie des gens, ça change tout, voyez-vous. De récupérer 4 jours de prédisibilité sur son emploi du temps que la loi El Khomri vous a volé, c'est un progrès. Travailler 35 heures et au-delà être payé en heures supplémentaires, c'est un progrès. Ce n'est pas un retour en arrière. Ce qui est un retour en arrière, c'est les trouvailles de messieurs Fillon et Macron qui veulent purement et simplement annuler le code du travail.
Droit opposable à l'emploi, ça veut dire que quand on ne trouve pas un emploi, c'est l'État qui pourvoira.
Alors, c'est un peu plus compliqué. Ça s'appelle la loi ATD Quart-Monde. Elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Je suis bien surpris qu'aujourd'hui, tout d'un coup, se lèvent des objections. Ce que je propose de faire, c'est d'en généraliser l'application. Et en effet, il y aura des emplois coopératifs qui seront proposés en dehors du secteur marchand pour une durée, disons, de 5 ans et pour ceux qui les acceptent et qui les veulent.
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, dimanche, au moment où vous étiez à Marseille, au grand jury RTL Le Figaro a jugé que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. Ce refus de la repentance réaffirmé par la candidate du FN, vous en dites quoi ?
Oh, c'est stupide. C'est déclencher des polémiques absolument inutiles. L'histoire de France a fait que les présidents successifs ont fait évoluer la question et le regard qu'on portait dessus. Bien sûr que ce n'est pas la République française. Elle avait été abolie par les prédécesseurs de Madame Le Pen, qui étaient les partisans de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Ils ont donc porté la responsabilité et de la défaite et de la collaboration. Mais sur cette affaire, il devient très difficile de dire personne n'y est pour rien, alors que c'est la police française qui a organisé la rafle. Et à quelques exceptions près, de quelques policiers héroïques, les autres ont obéi pour le déshonneur de la patrie. Et pour toujours. Par conséquent, pourquoi rallume-t-elle cette querelle ?
Pourquoi ?
Je ne sais pas, pour blesser.
À 15 jours de la présidentielle.
Oui, ça blesse, ça crée une polémique inutile. C'est douloureux pour beaucoup de gens encore qui ont un souvenir terrifiant de cette grande rafle. Quant à la France, elle n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le président Chirac a dit une fois une chose, quoi qu'on en pense, tâchons de nous tenir à une continuité dans notre regard sur l'histoire. La République française n'est pas coupable, mais la France l'est.
La question que je pose à tous les candidats à la présidentielle, la première chose que vous faites le 23, si vous êtes qualifié au second tour, première chose que vous faites personnellement ?
Le 23 ? La sieste.
Ah bon ?
Car il faut
c'est
réfléchir.
Pas fini si vous êtes qualifié.
La sieste, c'est pas toute la journée.
Parce que Benoît Hamon, hier, nous a dit la sieste, mais lui, c'est parce qu'il était éliminé.
Ah, non, moi, je fais la sieste parce qu'il faut décider au calme et en étant maître de soi. Or, vous savez comme moi que dans ce genre de circonstances, il règne autour de soi une grande agitation et que la seule manière de la calmer est d'être soi-même immobile et inatteignable.
Et si vous n'êtes pas qualifié, alors ?
Ça ne se produira pas, je le serai.
Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité
Merci
ce matin
madame.
Sur RTL.